Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
La République du Mali est née. Le Mali continue. Le mot Mali continuera à résonner comme un gong sur la conscience de tous ceux qui ont œuvré à l'éclatement de la Fédération du Mali ou qui s'en sont réjouis. Nous restons mobilisés pour l'idée de la Fédération qui, malgré tout, demeure une semence virile de l'unité africaine. Nous avons perdu une partie, mais nous gagnerons la manche, Inch'Allah. Les puissances d'argent, les forces rétrogrades et impérialistes n'y pourront rien.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui aux commandes d'un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Et c'est par cet extrait d'un discours prononcé par le premier chef d'État du Mali, Modibo Keïta, il y a exactement 63 ans que je voudrais commencer le programme d'aujourd'hui. Je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent depuis Bamako sur le 99.5 FM et je vous félicite pour la fête de l'indépendance de la République du Mali. Et voici sans plus attendre le programme de notre émission d'aujourd'hui. Le porte-parole transgenre de l'armée ukrainienne suspendu après avoir menacé les journalistes russes, l'Algérie qui ouvre ses premières banques en Mauritanie ainsi qu'au Sénégal, et la Russie qui multiplie par 8 le nombre de ses groupes parlementaires d'amitié avec les pays africains. Le Mali fête les 63 ans de son indépendance. Une enseignante malienne reviendra sur la portée de cet événement. La Pologne a annoncé qu'elle cessait de livrer des armes à l'Ukraine. Un conseiller français en stratégie internationale ainsi que le président d'un parti politique français réagiront à notre micro à cette décision. Le coup près est tombé pour la porte-parole transgenre de l'armée ukrainienne Sarah Ashton Chirilo. La défense ukrainienne a annoncé sur les réseaux sociaux que celle-ci était suspendue de ses fonctions. Une enquête a été ouverte contre elle. Pour rappel, Sarah Ashton Chirilo avait menacé de mort dans une vidéo un représentant des médias russes, affirmant qu'il paierait et que tous les journalistes russes seraient traqués. Cette décision avait fait scandale, le ministère des Affaires étrangères russe avait exprimé son indignation face à une nouvelle manifestation du caractère terroriste du régime de Kiev qui répand des menaces contre les journalistes russes. Nous en avions parlé en détail dans une précédente émission. La Mauritanie est devenue le premier pays à accueillir une banque algérienne à l'étranger. L'Algerian Union Bank a été inaugurée le 20 septembre dernier à Nouakchott, selon le média algérien TSA. Le ministre algérien des Finances et celui du Commerce et de la Promotion des Exportations avaient fait le déplacement à l'occasion de cet événement. L'établissement constitué par 4 banques publiques algériennes aura pour mission d'accompagner les exportateurs algériens en Mauritanie et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Mais Rouhan Aliane, le directeur de la filiale, a déclaré que les Mauritaniens pourront également bénéficier des mêmes services pour leurs investissements en Algérie. La Mauritanie n'est pas le seul pays dans le viseur d'Alger pour y implanter des banques. L'Algérie vient tout juste d'ouvrir une filiale de l'Algerian Union Bank au Sénégal. Enfin, un plan d'ouverture d'une filiale en France est actuellement en cours de préparation par la Banque extérieure d'Algérie. Toutefois, les dates de finalisation ne sont pas encore connues à ce jour. Discuté pendant le sommet Russie-Afrique, l'initiative de renforcer les liens entre les parlementaires russes et africains prend forme. Cholban Karaoul, le vice-président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, a annoncé à Spoutnik que 15 nouveaux groupes qui interagiront avec les parlements africains ont été créés. Auparavant, il existait 2 groupes liés à la République centrafricaine et à l'Afrique du Sud. Une source de la Douma a indiqué au quotidien russe Vedomosti que parmi les nouveaux pays figurent l'Égypte, le Cameroun, le Gabon et Djibouti. Cholban Karaoul a souligné que le sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg a largement contribué à ce résultat. La communication entre les délégations africaines et russes s'est déroulée dans un esprit de pleine compréhension et de soutien mutuel, d'où cette initiative de créer de tels groupes. Monsieur Karaoul a ajouté qu'un groupe d'amitié avec le Cameroun lui avait été personnellement confié. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Le 22 septembre est une date particulière pour les Maliens. Le 22 septembre 1960, sous la houlette de Modibo Keïta, le Mali est devenu indépendant suite à l'éclatement de la Fédération du Mali qui regroupait également en son sein le Sénégal et la République soudanaise, l'actuelle République du Mali. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait du discours d'indépendance prononcé ce jour-là par Modibo Keïta, le tout premier président de la République du Mali.
Nous vous invitons à autoriser l'Assemblée législative, premièrement, à appréhender les compétences transférées par la République soudanaise à la Fédération du Mali. Deuxièmement, à proclamer comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Troisièmement, à proclamer que la République soudanaise s'appelle République du Mali, libre de tous engagements et liens politiques vis-à-vis de la France, comme la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Dahomey. C'est la conséquence logique de la caducité des accords franco-maliens que la France a délibérément violé en reconnaissant la République du Sénégal comme État indépendant. Notification de ces décisions sera faite au gouvernement français, à l'Organisation des Nations Unies et à tous les pays indépendants. Fidèle à notre idéal d'union et de paix, j'insiste sur ce mot. Nous sommes décidés à établir des relations amicales avec tous les États du monde, sans exclusive aucune, singulièrement avec ceux d'Afrique qui seront désireux de promouvoir une politique d'union et de progrès, de s'engager résolument dans la lutte pour la libération totale du continent africain et l'établissement d'une paix durable entre tous les peuples.
L'URSS a reconnu très rapidement l'indépendance du Mali. Les relations diplomatiques entre l'Union soviétique et la République du Mali ont été établies le 14 octobre 1960. Et Moscou a très rapidement aidé Bamako dans son développement et son avenir. Avec l'aide de l'URSS, des travaux de prospection géologique ont été réalisés. Un stade de 25 000 places à Bamako, l'hôpital Gabriel Touré, un centre d'apprentissage ainsi qu'une cimenterie ont notamment été construites. L'URSS a accordé à la République du Mali plus de 570 millions de dollars de crédit. Des milliers de professeurs, médecins et autres spécialistes soviétiques et russes ont travaillé au Mali. Plus de 5 000 Maliens ont suivi des cours de russe auprès du Centre culturel soviétique et plus de 10 000 Maliens ont fait leurs études en URSS ou en Russie. À l'occasion de son discours à la Nation, à la veille du 63e anniversaire de l'indépendance et le premier sous la 4e République, le président de la transition Assimi Goïta a souligné l'importance de la coopération avec la Russie.
Et je voudrais, en cette circonstance, saluer les partenaires sincères du Mali, singulièrement la Fédération de Russie, dont les efforts et l'accompagnement nous ont été fort utiles pour la préservation de notre souveraineté dans un contexte national, régional et international, marqué par des tensions multiformes sur fond d'intérêts divergents.
Il est à noter que la coopération entre Moscou et Bamako continue de se développer et de s'approfondir. En marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov. Le colonel Assimi Goïta a indiqué aussi dans son discours que le Mali recouvrera sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire.
La nouvelle politique de défense intègre les citoyens dans un système plus adapté aux conditions d'un pays faisant face à des menaces sécuritaires multiformes. C'est pourquoi le gouvernement a restauré et amélioré le service national des jeunes. Il a également pris un décret sur la réserve des forces armées et de sécurité. Aussi, la nouvelle constitution prévoit la mobilisation aux côtés des forces armées et de sécurité de tous les citoyens âgés de 18 ans au moins pour la défense de la patrie. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, après 10 ans de présence des forces étrangères sur notre sol, nous avons compris que la logique était plutôt d'entretenir l'insécurité et de nous maintenir dans la dépendance. C'est la raison fondamentale pour laquelle le peuple malien a décidé de prendre en main sa sécurité. Avec la nouvelle dynamique consécutive au retrait de la MINUSMA et les opérations militaires en cours, le Mali recouvrera sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. À cet effet, en application de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement de la République du Mali veillera au redéploiement effectif des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'au retour des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. Cela est d'autant plus urgent que la deuxième phase du retrait de la MINUSMA devra faire l'objet d'un suivi rigoureux dans les localités de Douanzan, Ansongo, Agelhok, Kidal, Tessalit, au plus tard le 31 décembre 2023. Ce processus ne saurait se finaliser sans contrainte. Toutefois, j'invite les populations à resserrer les rangs autour des FAMA dans l'accomplissement de cette mission décisive. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, face aux multiples défis auxquels notre pays est confronté, notre diplomatie a su se réinventer pour jouer tout son rôle dans l'atteinte de nos objectifs majeurs de refondation, notamment la reconquête de notre souveraineté. Les résultats obtenus en termes de crédit de notre pays, mais aussi de mobilisation de ressources et de partenariats en soutien à nos efforts de développement, confortent nos choix. Ce repositionnement stratégique impulsé est appelé à se poursuivre dans un contexte d'incertitude lié aux profondes mutations en cours sur la scène internationale.
À l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance malienne, Spoutnik Afrique adresse ses félicitations à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent sur les ondes de Maliba FM. Au micro de Spoutnik Afrique, Fatoumata Traoré Samaké, présidente de l'initiative citoyenne Mon Parti, c'est le Mali et enseignante à la faculté FSAP à Bamako, est revenue sur l'importance de cette date pour les Maliens.
Mes chers compatriotes, Maliens et Maliennes, je vous souhaite une très bonne fête d'indépendance en ce vendredi 22 septembre 2023. Je suis très contente que cette fête soit organisée et célébrée avec sobriété pour rendre hommage non seulement à nos forces de défense et de sécurité, mais également rendre hommage à nos martyrs, à nos pères de l'indépendance qui ont toujours souhaité et voulu la souveraineté au peuple malien, la souveraineté à la nation malienne. La souveraineté d'un pays est un droit et nous y aspirons nuit et jour. J'encourage les autorités maliennes à redoubler d'efforts pour nous faire gagner cette souveraineté. Au peuple du Mali, je vous encourage à soutenir et à faire l'union sacrée autour de la République. Nous n'avons que ce Mali pour nous affirmer. Nous n'avons pas un autre patrimoine si ce n'est le Mali. Nous devons tout faire pour que ce Mali reste debout. Que ce Mali compte parmi les grandes nations de ce monde. Et pour ce faire, nous devons agir avec responsabilité, avec espérance, avec dignité, mais surtout avec persévérance pour que notre nation soit forte et prospère, pour que nos fils et nos filles jouissent des fruits de notre combat, pour que nous-mêmes, en tant que peuple, en tant que nation, puissions subsister, pour qu'un jour, qu'on sache que nous nous sommes battus pour ce pays-là. Nous devons tout faire pour assurer non seulement le bonheur des générations présentes, mais également des générations futures. Courage et force à vous, peuple malien.
En quoi cette date est-elle importante pour le peuple malien?
Cette date, elle est importante pour chaque Malien et chaque Malienne. Pourquoi la date est importante? D'abord, c'est une date symbolique qui marque le fait que le pays a retrouvé son indépendance. Le Mali étant sous le joug colonial jusqu'en 1960, a retrouvé sa liberté, sa souveraineté, son indépendance un 22 septembre 1960. Donc c'est une date hautement patriotique, une date hautement symbolique pour les Maliens dans la mesure où ça marque le début de notre pleine jouissance de nos droits en tant qu'êtres humains. Alors, cette année, cette date a été célébrée avec sobriété. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité a été heurtée à plusieurs attaques terroristes qui continuent d'endeuiller les familles au Mali ici. Alors, nous avons estimé que nous n'allons pas fêter une telle date, mais que nous allons célébrer pour nous mémoriser les pères de l'indépendance qui se sont battus, qui ont tout fait pour que le Mali puisse retrouver son indépendance, sa souveraineté, sa liberté dans le concert des nations. 22 septembre 1960, 22 septembre 2023 est une date très importante pour l'ensemble du peuple malien. C'est une date qui marque non seulement l'indépendance de notre pays dans les années 60, mais en réalité, c'est une date symbolique parce que ça marque le début de notre indépendance, de notre souveraineté, de notre liberté en tant que peuple, en tant qu'humain sur cette terre. Parce que nous avons été colonisés, nous avons été martyrisés, nous avons connu la domination du colon, la traite négrière. Le 22 septembre 1960 marque la fin de cette domination qui a martyrisé et endeuillé nos familles, qui a mis le peuple sous le joug colonial pendant des décennies et des décennies. Donc c'est une date hautement symbolique pour l'ensemble du peuple malien. Donc c'est une date importante qui a été célébrée cette année dans la plus grande sobriété en mémoire aux victimes des attaques terroristes qui ont endeuillé les familles, meurtri les populations.
Et quel souvenir personnel avez-vous de cette fête? Comment la célébrez-vous?
Bon, le souvenir que j'ai pour cette fête du 22 septembre, c'est d'abord depuis le bas âge, chaque année nous fêtons cette date-là. Nous la fêtons quand nous sommes à l'école. Donc en tant qu'élèves, on nous faisait sortir pour accueillir les autorités qui se mettent souvent dans des endroits stratégiques, les endroits symboliques pour célébrer la mémoire des pères de l'indépendance et surtout magnifier cette journée symbolique. Donc j'ai de bons souvenirs de cette date parce que nous avons toujours été mobilisés en tant qu'élèves, mobilisés en tant qu'étudiants et aujourd'hui nous sommes mobilisés en tant que chefs de famille, en tant que citoyens tout simplement du Mali pour commémorer cette date importante de notre histoire. Donc nous la célébrons. Cette année, comme je l'avais dit tantôt, nous ne fêtons pas, mais nous célébrons la date parce que nous ne pouvons pas rester sans la célébrer, sans manifester notre joie d'avoir retrouvé notre liberté, notre dignité.
Il est actuellement question d'une éventuelle fédération souple du Mali et du Burkina Faso, et certains experts considèrent l'Alliance du Sahel comme une étape vers une telle fédération, mais sous une forme élargie avec le Niger. Cependant, en 1960, le Mali a cessé d'être un pays membre d'une autre fédération, avec le Sénégal. Pourquoi cette fédération de 1959 n'était pas viable ?
Aujourd'hui, effectivement, il est question d'une fédération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc c'est l'Alliance des pays du Sahel, et l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, qui a été créée il y a quelques jours pour mettre ensemble, mutualiser les efforts des trois pays pour bouter le terrorisme hors de nos territoires du Sahel. Ces trois pays ont décidé de se donner la main, comme nous l'avons toujours demandé, le peuple malien l'a demandé à maintes reprises, parce que en 1960, avec l'éclatement de la fédération Mali-Sénégal, nous sommes restés nostalgiques vis-à-vis de cet éclatement, parce que au départ, c'était quatre pays qui devraient former cette fédération. Il y avait le Bénin, il y avait la Haute-Volta, qui est l'actuel Burkina Faso. Donc il y avait le Mali et puis il y avait le Sénégal. Aujourd'hui, nous n'avons pas le Sénégal, mais au moins nous avons les pays des trois frontières, Mali, Burkina, Niger. Donc c'est également quelque chose de très important. C'est une alliance que nous souhaitons durable pour le grand bonheur de nos peuples et de nos États. La fédération Sénégal-Mali n'était pas viable parce que nous avions au départ quatre fédérations et deux pays s'étaient déjà désolidarisés avant même que la fédération ne puisse voir le jour. Les deux pays qui ont finalement décidé de continuer n'ont pas pu se comprendre. Les raisons sont connues. Je pense que c'était surtout un manque de volonté politique de fédérer nos États à cette époque, parce que chacun tenait à son indépendance, chacun se voyait déjà indépendant et ne voulait en aucun cas dépendre l'un de l'autre. Je pense que c'était la raison fondamentale qui a poussé à l'éclatement de cette fédération.
Et pourquoi avoir choisi le nom Mali en lieu et en place de République soudanaise ?
Nous avons choisi le nom Mali en 1960 parce que à l'époque, le Mali s'appelait le Soudan français. Et le mot Soudan français nous rappelait le joug colonial, nous rappelait la colonisation, nous rappelait notre esclavagisation, notre manque d'indépendance, nous rappelait la traite négrière. Et c'était vraiment chargé d'histoires tristes pour nous, peuple malien. Nous avons décidé de donner notre propre nom, c'est-à-dire le nom dans lequel nous nous reconnaissons, à savoir l'Empire du Mandé qui avait été là auparavant, mais surtout donner un nom qui cadre avec nos valeurs. Mali, si on doit définir, ça se réfère à l'hippopotame. Nous avons des fleuves qui régorgeaient d'hippopotames et nous avons voulu vraiment donner ce nom-là à ce beau pays. Le Mali.
Peut-on dire qu'en 1960, le pays est devenu véritablement indépendant ?
Oui, en 1960, le pays est devenu indépendant, d'une certaine manière. Indépendant dans le sens que le colon a décidé de quitter nos territoires. Indépendant dans le sens que nous avons pu mettre en place notre propre gouvernement, nos propres institutions. Nous avons pu diriger nous-mêmes sans que ce soit sous l'injonction ou la domination d'un pays étranger. Donc en ce sens, en 1960, nous avons eu notre indépendance. Mais aujourd'hui, avec le recul, Si nous faisons une analyse de tout ce qui s'est passé de 1960 à nos jours, nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas véritablement indépendants parce que nous n'étions pas financièrement indépendants et jusqu'à présent, nous ne sommes pas financièrement indépendants. Aucun pays du monde ne peut être souverain et indépendant sans avoir une totale maîtrise sur ses finances. Aujourd'hui, le franc CFA est un symbole de la domination coloniale. Nous ne sommes pas indépendants parce que toutes nos politiques étaient dictées de l'extérieur. Nous ne pouvons rien décider sans que nous soyons téléguidés par l'extérieur, en l'occurrence le pays colonisateur. Nous ne sommes pas indépendants parce que même nos systèmes éducatifs, notre système économique, tout cela était dirigé et était orienté par d'autres personnes, d'autres pays. Donc nous ne sommes pas du tout véritablement indépendants. Nous n'avions même pas une souveraineté militaire dans la mesure où nous sommes toujours obligés de faire appel à des forces étrangères pour venir nous protéger et protéger nos populations. Aujourd'hui, je pense que avec l'arrivée de la transition, nous sommes en train de voir comment rendre véritablement indépendant notre pays. Parce que nous en avons besoin. Nous avons eu des personnes, des pères de l'indépendance, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. À la mémoire de toutes ces personnes disparues, à tous ces martyrs, nous pensons qu'il est important aujourd'hui que nous continuions à nous battre pour être véritablement indépendants.
Modibo Keïta, le premier chef d'État du Mali, envisageait de nombreuses réformes qui auraient assuré la véritable souveraineté du pays, y compris la souveraineté économique. Et qu'est-ce qui a empêché, selon vous, la réalisation de ces idées ?
À vrai dire, Modibo Keïta était un visionnaire. C'était un chef d'État qui voulait effectivement assurer l'indépendance totale du pays. Il a d'abord commencé par des réformes, non seulement par des réformes en profondeur, mais aussi des réformes concrètes. Le tissu social, le secteur économique, le secteur culturel, tout ce qui s'ensuit comme réforme, comme action, était dirigé vers cette indépendance, l'obtention de cette indépendance. Et c'était un travail qui avait commencé avec d'abord la création de beaucoup d'usines. On estimait à plus d'une trentaine d'usines à l'époque. Et après, il y a eu d'autres réformes liées à l'éducation. Il y a eu des réformes qui étaient liées à l'économie. On avait notre propre franc. Et on avait d'autres réformes qu'on a vraiment pu mettre en place pour avoir une certaine souveraineté. Mais malheureusement, en 1968, son pouvoir a été lui a été enlevé. Et toutes les réformes qu'il avait engagées pour la véritable indépendance du Mali, ces réformes-là ont été piétinées. Et la raison principale pour laquelle Modibo n'a pas pu continuer ces réformes, c'est parce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord avec ces réformes-là. Il y avait des personnes qui ne voulaient pas de cette réforme, sans compter le fait que l'ennemi n'était pas loin. L'ennemi n'était pas loin. En vérité, nous avons eu notre indépendance à contre-cœur. C'est-à-dire que le colon ne voulait pas du tout cette indépendance et le colon avait tout mis en œuvre pour que nous ne soyons pas véritablement indépendants. Sans compter certains fils de la nation qui se sont rendus complices de cette situation pour leur propre poche, pour leur propre, à leur propre avantage, pour leurs propres intérêts. Donc, ça ne pouvait pas prospérer parce qu'une seule personne ne peut pas mener ce bateau qu'est l'indépendance à bon port sans l'apport de tous les Maliens et de toutes les Maliennes. Voilà pourquoi la réalisation de cette idée est tombée à l'eau.
Et encore une dernière question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a changé pour les Maliens après 63 ans d'indépendance ?
Aujourd'hui, ce qui a changé pour le Mali, c'est d'abord la prise de conscience généralisée sur le fait que nous n'étions pas véritablement indépendants. Ça, c'est un premier point. Ce qui a changé aussi, c'est le fait que le peuple malien aujourd'hui est résolument tourné vers la quête de cette souveraineté nationale, de manière à asseoir une politique viable sur le long terme qui va faire le bonheur et la prospérité de tout le peuple malien. Aujourd'hui au Mali, ce qui a changé, c'est que nous avons l'assentiment de tout le peuple pour un changement de paradigme, un changement de façon de faire, un changement de comportement qui pourra être bénéfique pour le Mali et les Maliens. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que nous avons un chef d'État donc qui veut changer cette trajectoire, qui a décidé d'écouter son peuple et qui aujourd'hui met tout en œuvre pour que la souveraineté du Mali soit une réalité, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, tout est en train d'être mis en œuvre pour ce changement-là. Ce changement que les Maliens ont attendu pendant 63 ans. Et nous pensons que si les choses se déroulent telles que l'ont souhaité nos autorités, si réellement tous les Maliens se mettent ensemble, les personnes qui sont à des niveaux différents, de responsabilité, si ces personnes-là décident de suivre cette trajectoire, je pense que le Mali va s'en sortir et le changement tant attendu sera une réalité.
C'était Fatoumata Traoré Samaké, présidente de l'initiative citoyenne Mon Parti C'est le Mali et enseignante à la faculté FSAP à Bamako pour Spoutnik Afrique. Elle est revenue sur l'importance du jour de l'indépendance pour les Maliens qui célèbre actuellement le 63e anniversaire du Mali. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de Contact et Afrique en Marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. La Pologne a dit niet. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a annoncé qu'il ne fournirait plus d'armes à l'Ukraine et que son pays se concentrerait sur son propre armement. Il a ajouté que cette décision était en lien avec le souhait de Varsovie de moderniser son armée et de la transformer en une des armées terrestres les plus puissantes d'Europe. Piotr Müller, le secrétaire d'État du Premier ministre polonais, a précisé toutefois que les accords passés précédemment en matière de fourniture d'armes continueront à être honorés. Derrière cette décision polonaise qui surprend à plus d'un titre, se cachent des brouilles diplomatiques sur le blé ukrainien. La Commission européenne a levé l'embargo sur l'importation de céréales ukrainiennes qu'elle avait mise en place au printemps dernier. Toutefois, trois pays européens font de la résistance. Il s'agit de la Pologne, de la Hongrie et de la Slovaquie. C'est pour protéger leurs agriculteurs que ces pays ont pris cette décision. En ce qui concerne la Slovaquie, un compromis a été trouvé bien que les restrictions imposées par Bratislava resteront en vigueur jusqu'à la fin de l'année. Et l'Ukraine a d'ores et déjà riposté. Un embargo sur les fruits et légumes polonais va être imposé par Kiev. Et l'Ukraine n'entend pas s'arrêter là, puisqu'elle a également déposé plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Sur le plan de l'armement, Kiev se montre de plus en plus exigeant vis-à-vis de ses sponsors occidentaux. Le conseiller du commandement de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Ignat, a déclaré que Kiev n'avait pas besoin des Mirage 2000 car ceux-ci étaient trop vieux. Il a ajouté que l'Ukraine ne pouvait pas se permettre d'accepter n'importe quoi pour sa flotte aérienne et qu'il existe des appareils bien meilleurs en France et en Europe. L'Ukraine a également refusé récemment une dizaine de chars Léopard livrés par l'Allemagne. Elle les avait jugés en mauvais état selon le Der Spiegel. Au micro de Spoutnik Afrique, Alain Corvez, conseiller français en stratégie internationale ainsi que Florian Philippot, homme politique français, président du parti politique Les Patriotes, ont réagi à cette décision prise par le gouvernement polonais. Monsieur Corvez, le conseiller du commandement de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Ignat, a déclaré que Kiev n'avait pas besoin des Mirage 2000 car ceux-ci, je cite, étaient trop vieux. Il a ajouté que l'Ukraine pouvait ne pas se permettre d'accepter n'importe quoi pour sa flotte aérienne et qu'il existait des appareils bien meilleurs en France et en Europe. Quelle est votre réaction face aux propos de ce responsable ukrainien ?
Alors écoutez, j'avais vu cette déclaration de ce responsable ukrainien. Je dois dire que c'est pitoyable d'entendre toutes ces déclarations. En réalité, l'Ukraine a perdu la guerre, elle le sait, les Américains le savent, la plupart des gens informés en Europe le savent aussi. Mais les Américains, pour des raisons diverses, notamment électorales, font semblant de ne pas le savoir et veulent faire se prolonger ce conflit tragique pour les pauvres Ukrainiens et les Russes également qui meurent aussi, mais surtout les Ukrainiens majoritairement. Et donc, on a droit à des déclarations complètement folles, illogiques, enfin, sortant de toute rationalité. Alors, en plus, concernant ces histoires d'avions modernes, que ce soit les F-16, les Gripen ou les Mirage, voire les Rafales, on ne forme pas un pilote de tels appareils en quelques semaines, ni même en quelques mois. Donc ça ne correspond à rien du tout, à moins qu'on mette aux commandes des Américains, des Suédois, des Français ou je ne sais pas quelle nationalité pour piloter ces appareils. Donc cette déclaration est une déclaration folle de gens qui ne savent plus quoi faire pour essayer d'accomplir la mission qu'ils sont chargés d'accomplir, qui est de continuer cette guerre. On est dans une situation tragique et on voit bien que les autorités de Kiev critiquent de plus en plus leur soutien, alors que ils sont acculés à une défaite inéluctable. Donc, je n'attache aucune importance à de telles déclarations parce qu'elles sont hors de propos et ne correspondent à rien de concret et de consistant dans la réalité.
Monsieur Philippot, on a le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, qui a annoncé qu'il ne fournirait plus d'armes à l'Ukraine et que son pays se concentrerait sur son propre armement. Quelles sont les conséquences pour Kiev de cette décision de Varsovie ?
Ah bah c'est une rupture fondamentale parce que la Pologne est un pays qui était très en pointe dans l'aide à l'Ukraine, notamment l'aide militaire, et donc c'est un retournement considérable. C'est l'Ukraine qui perd l'un de ses plus précieux alliés, qui en plus semble très fâché de beaucoup de choses, sur beaucoup de sujets, les céréales, les propos de Zelensky à l'ONU, le manque de gratitude, le problème des réfugiés aussi, on le sait, hein, ukrainiens en Pologne qui commencent à poser problème. Donc voilà, je pense que c'est un tournant, je pense que ça intervient à un moment où Zelensky est quand même de plus en plus remis en cause, soit aux États-Unis, en Allemagne aussi, ou même dans son propre pays. Donc on sent un tournant, on sent qu'il est vraiment le temps de négocier, quoi. Voilà, il est temps d'arrêter cette histoire et de négocier la paix le plus vite possible.
Et vous, Monsieur Corvès, qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien, elle s'inscrit dans le cadre général que je viens de décrire, c'est-à-dire la défaite de l'OTAN et donc de l'Ukraine sur le théâtre des opérations. Et moi, je vois de plus en plus de pays européens qui soutenaient l'Ukraine devenir un peu plus réalistes et reconnaître qu'ils doivent d'abord s'occuper des intérêts de leur pays avant des intérêts de l'Ukraine. L'Ukraine, à mon sens, est terminée telle qu'elle était conçue en 91 et elle va être divisée entre les différentes influences des pays voisins et notamment de la Russie, bien entendu. Alors, cette déclaration polonaise est très importante parce que la Pologne était un des soutiens les plus actifs à l'armement de l'Ukraine. Et donc, dire ça, en plus, lors d'une tribune à New York, à l'ONU, je crois, c'est très important. Alors, la position de la Pologne est très importante parce que je dirais presque qu'elle entérine la défaite ukrainienne et que la guerre est quasiment en voie d'extinction parce que l'Ukraine donne l'image et le signal que les soutiens à l'armée ukrainienne sont terminés parce que même s'il y a eu des déclarations de Biden qui affirme qu'il va continuer à donner de l'armement à l'Ukraine récemment à Washington, il est clair qu'avec cette déclaration de l'Ukraine et puis de la Pologne pardon et puis de l'opposition à la continuation de ce soutien à l'Ukraine parce qu'ils disent la priorité c'est d'abord de soutenir notre pays, la Tchécoslovaquie, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie. On voit bien que l'alliance otanienne est en train de s'éclater, voire s'effriter. Et donc, la Pologne, qui était le chef de file du soutien militaire à l'Ukraine, devient maintenant le chef de file de ceux qui vont arrêter de soutenir l'Ukraine. Donc, on entre dans une période tragique pour l'Ukraine, car c'est un peu l'indication que le soutien à la guerre, le soutien à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie est terminé, ou en tout cas va se diriger vers une cessation prochaine, en dépit des déclarations bellicistes et guerrières des États-Unis et d'autres encore. C'est la fin d'un projet américain qui a échoué lamentablement, mais en faisant des tas de morts au sein de l'Europe. Les Américains, je pense que les stratèges américains se sont dit, comment ça se dire de façon de plus en plus précise, que leur grande inquiétude, c'est que la Russie se renforce avec, on le voit bien, les alliances avec la Chine, avec l'Iran, qui se précisent, la Syrie, qui est allé en le président Bachar al-Assad qui est à Pékin en ce moment, qui rencontre le premier Xi Jinping, et qui viennent de, j'ai vu ça ce matin, qu'ils vont signer un accord stratégique. Donc c'est pas uniquement un accord économique pour aider à la reconstruction de la Syrie, c'est également un accord stratégique. Donc je relis tout ça, car il faut relier tout ça. Les experts américains se disent, mais ce qui menace davantage notre suprématie, c'est la Chine, donc il faut arrêter de disperser nos forces en Ukraine et nous concentrer sur la véritable menace qui est la Chine.
Monsieur Corvez, on a l'Ukraine qui reproche également à la Pologne les propos tenus par le président polonais Andrzej Duda lors d'une rencontre avec les médias à New York. Il avait comparé l'Ukraine à, je cite, « un homme qui se noie et qui risque d'entraîner au fond et à noyer celui qui cherche à le sauver », comprenez par là la Pologne. Comment analysez-vous ces propos du président polonais ?
Étonnant, effectivement, mais elle est parlante et elle explique ce que nous venons de dire, c'est-à-dire que la Pologne a compris qu'il fallait d'abord qu'elle pense à ses propres intérêts et que si elle continuait à soutenir ainsi l'Ukraine dans une guerre perdue contre la Russie, elle desservait ses intérêts et qu'il fallait qu'elle se concentre sur sa propre défense. C'est pour ça qu'elle a parlé. Que les deux dirigeants, le président et le premier ministre, ont dit qu'il fallait qu'ils renforcent leur armée, qu'elle allait être la première armée européenne. Enfin là il y a aussi des exagérations dans les capacités de la Pologne à accomplir ça. Mais tout ça s'inscrit dans une vague très puissante qui est de dire le projet d'attaquer la Russie au travers de l'Ukraine a échoué complètement et il va y avoir des conséquences. Et si vous me permettez d'expliquer, de parler de ces conséquences, je pense que ces conséquences vont être de la dislocation de l'OTAN et même la dislocation de l'Union européenne qui montre ces incohérences et que il n'y a pas d'union européenne au sens étymologique du terme. Il n'y a au contraire une désunion. Et donc l'organisation étatique qui s'appelle Union européenne UE et va sans doute également être désintégrée.
Et vous, Monsieur Philippot, comment vous interprétez les propos du président polonais ?
Bah, ce sont des propos de pour le coup de bon sens. Si vous voulez, c'est l'exaspération de la Pologne. Et la Pologne s'est lancée tête baissée dans cette affaire, a dépensé beaucoup d'argent, a envoyé beaucoup d'armes et finalement se rend compte que ça ne sert à rien. Qu'elle a face à elle un pays très ingrat, enfin, en tout cas un gouvernement très ingrat plutôt, et elle, les termes qui sont employés sont violents, ce qui prouve bien que... Moi je pense qu'il y a une autre raison, c'est que la contre-offensive ukrainienne qui a été lancée en juin est un échec, et en réalité ça commence à agacer les soutiens de Kiev qui se disent mais tout ça pour ça, c'est-à-dire que on nous avait annoncé, on nous avait promis beaucoup de choses avec cette contre-offensive, nous on a donné beaucoup et finalement ça ne fonctionne pas, c'est un échec, et donc il y a une lassitude, un agacement, et peut-être que certains, et je l'espère, se rendent compte que Zelensky n'est pas un facteur de paix mais c'est un facteur de guerre, c'est quelqu'un qui n'ira jamais vers la paix, et ça peut aussi commencer à ouvrir certains yeux. J'espère en tout cas que c'est ça. J'espère qu'on va aller vers de plus en plus de sagesse, de raison, retrouver la raison, et que d'autres pays vont arrêter de fournir des armes et de l'argent, à commencer par la France. J'espère que la France va suivre la voie de la Pologne et va elle aussi arrêter de fournir des armes et de l'argent.
Monsieur Philippot, le conflit diplomatique sur fond de céréales ukrainiennes ne se limite pas uniquement à la Pologne. La Hongrie et la Slovaquie ont également imposé un embargo au blé ukrainien. Faut-il s'attendre, selon vous, à voir ces pays revoir leur copie dans le soutien de l'Ukraine dans le sillage de la Pologne ?
C'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible. Alors, ils pèsent moins que la Pologne hein, dans l'aide à l'Ukraine, mais c'est vrai que l'Ukraine, Zelensky, a un comportement très, 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 très désagréable. C'est-à-dire qu'il inonde le marché européen de céréales. Enfin, je vous signale aussi le problème des volailles pour la France. Hein. Les œufs, les volailles, on a le même problème, sauf que nous, on ne réagit pas. Et les pays légitimement se protègent parce que la Commission européenne, dans son élan dingue, refuse de mettre fin à la suppression des droits de douane. Donc les pays le font à sa place. Et Zelensky va devant l'OMC, devant l'Organisation mondiale du commerce, porter plainte. Donc c'est très, très, très... Pour des pays qui pourtant donnent de l'argent, accueillent des réfugiés, envoient des armes. Donc c'est considéré comme extrêmement ingrat et agressif, à juste titre. Et donc je pense que oui, il y a beaucoup de pays qui vont arrêter de soutenir. Mais vous savez, par exemple, l'Allemagne communique sur le soutien à l'Ukraine depuis des mois. Et en fait, quand il y a eu des enquêtes qui sont sorties là-dessus, quand vous regardez dans le détail, en fait, l'Allemagne n'envoie plus rien. Elle communique beaucoup, mais en fait, elle fait comme la Pologne, elle a arrêté. Et je pense qu'il faut que maintenant tous les pays arrêtent, quoi. Il faut que, et c'est qu'en arrêtant qu'on ira vers la paix, évidemment, on retrouvera la sagesse, on ira vers des négociations de paix.
Et vous, Monsieur Corvez, pensez-vous que Bratislava et Budapest vont emboîter le pas à Varsovie ?
Oui, bien sûr. C'est un processus inéluctable de l'échec de la guerre contre la Russie en Ukraine. Et dans ce processus général, il y a des pays qui sont en pointe. La Pologne a montré l'exemple, là, parce que c'est très révélateur, parce que, comme je le disais initialement, c'était le pays le plus anti-russe et qui soutenait au maximum l'Ukraine. Et donc, il va y avoir d'autres pays européens. Et, si vous voulez, l'Europe a été complètement subjuguée par les États-Unis d'Amérique depuis progressivement, et ça s'est accéléré ces dernières années, depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Car quand on voit le comportement de Olaf Scholz ou du président Macron ou d'autres chefs d'État européens totalement soumis aux injonctions américaines, on se rend compte qu'il y a là une dichotomie et une incohérence totale. Et donc, de premiers pays ont donné l'exemple, et je pense qu'il va y avoir un suivi de cet exemple par d'autres pays qui vont enfin se dire, mais on est en train de sombrer avec les États-Unis dans cet échec en Ukraine. Il est peut-être encore temps de s'en sortir et arrêtons de soutenir cette guerre en Ukraine et occupons-nous un peu de nos propres intérêts. Pour revenir à la question des céréales, vous avez tout à fait raison, parce que ça aussi c'est révélateur. Il y a trois pays, je crois, qui ont refusé d'importer des céréales ukrainiennes. Cette question des céréales prouve que c'est aussi un des facteurs déterminants qui va, je pense, on est à la veille de bouleversements importants en Europe, et c'est heureux parce que cette soumission totale des Européens aux États-Unis va, j'espère, prendre fin. Je ne dis pas que ça va être du jour au lendemain, mais en tout cas, il y a des pays européens qui montrent le chemin en disant « Occupons-nous d'abord de nos intérêts, et nos intérêts ne sont pas de continuer ce soutien à l'Ukraine ».
Monsieur Corvez, en marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a plaisanté avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Al-Gheit, en déclarant que le seul problème de la Russie à l'heure actuelle était de souffrir de l'isolement. Le secrétaire de la Ligue arabe avait apprécié cette plaisanterie et il avait souligné qu'il y avait toute une file d'attente devant la salle de négociation du ministre russe des Affaires étrangères. Et dans le même temps, selon des médias américains, le président de la Chambre des représentants des États-Unis, le républicain Kevin McCarthy, a refusé à Volodymyr Zelensky la possibilité de s'adresser au Congrès. Est-ce que l'on peut dire que le président ukrainien commence à ennuyer les Américains et que c'est bientôt lui qui sera isolé ?
Oui, on peut le dire. Et je ne connaissais pas cet échange entre le président de la Ligue arabe et Sergueï Lavrov. Mais elle est aussi révélatrice parce que c'est un autre aspect aussi géopolitique de la lassitude des soutiens à l'Ukraine, c'est que cette guerre a renforcé les alliances de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de plein d'autres pays.
Et du Sud et donc, global.
C'est global. Et donc McCarthy a pas tort en disant ça. Et il y a une contradiction entre ce que dit Biden, mais le pauvre président Biden qui n'en peut plus, il ne fait que dire ce qu'on lui dit de dire. Mais on voit bien que les experts américains, ceux qui savent et ceux qui décident, les gens de la Chambre des représentants et même au Sénat disent la vérité est que ils entérinent la défaite de la guerre de l'OTAN contre l'Ukraine. Et c'est très dangereux pour les États-Unis, car s'ils ont mené cette guerre, c'était pour empêcher une union entre une coopération entre la Russie et totalement, parce que ils ont rapproché la Russie de la Chine et des autres pays non alignés. Et maintenant, ils s'en mordent les doigts et ils s'aperçoivent qu'au lieu d'affaiblir la Russie, ils n'ont fait que la renforcer. Donc, les Américains, enfin, voient clair et se rendent compte de leur erreur. Et il y a de plus en plus de gens qui disent que dans l'intérêt des États-Unis, il faut arrêter cette guerre en Ukraine et puis se concentrer sur une obsession contre la Chine, alors que il suffirait de regarder la Chine et de dire c'est une grande puissance, on va discuter avec elle, parce que on peut pas empêcher la Chine d'être une grande puissance, mais ils ont cette phobie de la Chine et il ferait mieux d'ailleurs de réfléchir, parce que s'ils s'engageaient dans un conflit ouvert avec la Chine, ils le perdraient aussi. Donc la plupart des experts américains avisés mettent en garde contre cette attitude. Parce que, en fait, les États-Unis ont dominé le monde pendant une dizaine ou une quinzaine d'années, et maintenant c'est terminé. Et s'ils ont fait cette guerre contre la Russie, c'était, comme je le disais, pour empêcher l'Europe de devenir une puissance entre la Russie et l'Europe de l'Ouest. et qui auraient menacé leur suprématie. Mais ils savent maintenant que leur suprématie, de toute façon, elle est terminée et qu'il faut qu'ils s'adaptent à un nouveau monde qui est en train de naître avec une nouvelle géométrie du monde où les rapports de force ne sont plus le fait que la volonté américaine s'impose au monde entier. Donc, il y a un changement des paradigmes fondamentaux des rapports de force dans le monde. Et je pense que les guerres que les États-Unis ont déclenchées pour essayer de pérenniser la suprématie du dollar et la suprématie de leur influence dans le monde ont échoué. Et il est inéluctable que les États-Unis vont peut-être pas s'effondrer, et sûrement pas s'effondrer du jour au lendemain, bien qu'ils aient des problèmes internes très importants, mais en tout cas, leur suprématie est inéluctablement terminée.
Et vous, Monsieur Philippot, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah, mais je crois qu'il l'est, en fait. Il est déjà isolé. Aux États-Unis, sa visite a été beaucoup moins triomphale que la première, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, à l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU, devant les délégués, la salle était à moitié vide. On a même vu la télévision ukrainienne obligée de faire un vidéo montage en prenant du public, un faux public pendant que Zelensky parlait, et dans ce public il y avait Zelensky lui-même. Donc ils ont pris des images, ils se sont emmêlés les pinceaux, ils ont pris des images, on voyait Zelensky lui-même dans le public qui était en train de s'écouter lui-même, parce qu'ils ont fait un montage pour faire croire qu'il y avait du monde qui l'écoutait alors qu'il y avait personne. Donc en fait, qu'est-ce qui reste ? Il reste quelques pays européens essentiellement, c'est tout, des pays qui sont soumis à Washington, c'est tout. Il n'y a plus grand-chose. On voit bien que l'essentiel du monde ne refuse cet acharnement thérapeutique derrière un pays qui, de toute façon, ne peut que perdre et qui ne propose aucune perspective de paix. Donc, toute l'Amérique latine, l'Afrique, une grande partie de l'Asie a lâché l'affaire depuis longtemps, où il n'y a jamais été, d'ailleurs. Et aux États-Unis, on voit bien que l'opinion publique s'est retournée, on voit que les parlementaires sont de plus en plus dubitatifs. Même l'administration Biden commence à être un peu agacée. Donc, oui, moi, je pense que c'est fini. Le Zelensky ne passera pas l'hiver en termes politiques. Hein. Il ne passera pas l'hiver et il faudra aller vers la paix. Voilà, tout simplement.
Monsieur Corvet, je vous donne le mot de la fin. Avant la visite de Volodymyr Zelensky à New York, des médias avaient affirmé que le but du déplacement de Zelensky était d'obtenir des missiles Atakhmes. Et dans le même temps, l'Allemagne ne livre pas de missiles Taurus à Kiev. Selon l'analyste allemand Julian Röpke, la Russie n'a plus qu'à attendre que cette coalition s'effondre. Êtes-vous d'accord avec cette vision-là ?
Oui, je suis assez d'accord. Alors, il y a peut-être un chantage de Biden avec les instances des représentants ou du Sénat, de la Chambre des représentants ou du Sénat. Sur les ATAMCS là, mais je crois que effectivement les Allemands ont manifesté leur refus, c'est-à-dire que ils ne veulent pas l'escalade en direction de la Russie, et ça se relie très bien avec ce que j'ai dit précédemment sur le fait que les Occidentaux, pour employer un terme générique, réalisent de plus en plus leur échec et qu'il faut limiter les dégâts.
C'était Alain Corvez, conseiller français en stratégie internationale, ainsi que Florian Philippot, homme politique français, président du parti politique Les Patriotes pour Sputnik Afrique. Ils ont réagi à la décision du gouvernement polonais de ne plus livrer d'armes à l'Ukraine. Mesdames, messieurs, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouverai très vite aux commandes d'une nouvelle émission de Zone de Contact. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Mais avant de passer l'antenne à mes collègues maliens de Maliba FM, je voudrais les féliciter pour la fête de l'indépendance avec les mots de Modibo Keïta.
Rechercher et diffuser des nouvelles exactes. Rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soient. Lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.